à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour l'émission 100% foot. Nous allons donc parler de cette journée de football de ce week-end, également un petit peu de, et pas mal, de nos équipes régionales, dont Martigues Aubagne, et du football féminin avec l'Olympique de Marseille en section féminine en l'occurrence. Patrick, bonjour.
Salut Franck, bonjour à toutes et à tous.
Toujours présent, toujours prêt, en attendant la trêve hivernale et les fêtes de fin d'année, nous allons pouvoir parler de l'Olympique de Marseille pour démarrer notre émission. Avec ce match OM-Lille qui s'est disputé donc samedi après-midi, avec Patrick dans les tribunes, une fois n'est pas coutume, et de multiples spectateurs. On parle toujours de guichet fermé, mais tous les matchs sont à guichet fermé.
Oui, ça fait, c'est l'OM. Ça fait plus de deux ans que tous les matchs sont à guichet fermé. Et il y avait une belle ambiance samedi après-midi à 17h. Et bon, on va donc un peu revenir sur le match. Considération générale, mon opinion. Bon, match nul. C'est hyper ralent parce que tu prends le but à la 87e.
En effet.
Beaucoup francs, bien tiré, d'accord. Mais enfin, je veux dire, le mec, il met la tête. Enfin, bon, bref.
Oui.
Passons, on va glisser. Il aurait jamais dû être là, celui-là. Il aurait dû être expulsé.
Voilà, je voulais en venir à cela, voilà, puisqu'on parle du buteur, donc Diakité, qui a infligé un traitement assez, je dirais même méchant et sévère, ouais, à notre avant-centre Mopé. En l'occurrence, il a été averti d'un carton jaune, mais je pense également qu'il aurait dû, évidemment, quitter son équipe et prendre un carton rouge. Il le méritait amplement. Bon.
Voilà, oui. Ça, disons que, on parlera un peu plus tard de l'arbitrage. Sur le match, si on est honnête, le match nul n'est pas scandaleux parce que Lille a bien joué. Et le meilleur joueur de l'OM, ça a été Rouli, le gardien de but, qui a été énorme. En première mi-temps, il a fait 2-3 interventions, j'allais dire miraculeuses, mais où il sort dans les pieds des mecs, où il arrive à intercepter.
On commence à s'y habituer, malheureusement. C'est le dernier rempart qui reste le meilleur joueur.
Et disons que, parce qu'ils ont, je pense que Genesio avait bien regardé l'OM jouer, et ils avaient repéré la faille sur les côtés, avec les joueurs qui plongent. D'ailleurs, il y a eu une action où Zegrova est parti dans le dos. Mmh. Il n'est pas au jeu d'après les images, effectivement. Et où il se présente seul, il tente un lob. Par chance, il le met à côté. Parce que s'il le met dedans, c'est mort, tu ne peux rien faire. Il t'arrive seul devant, il te lobe. Et mener 1-0 à la mi-temps, c'était pas mal. Et terminer à 1-1 à la fin du match, c'est ralent sur ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas de scandale non plus, parce qu'on en parlait avec les copains et on en discutait d'ailleurs avec Franck tout à l'heure. Lille, c'est une très belle équipe qui, moi, m'a beaucoup impressionné, beaucoup plus que Monaco, beaucoup plus que Lyon ou que d'autres équipes. Parce qu'en plus, quand en deuxième mi-temps, Genesio a fait des changements, il a fait rentrer des joueurs.
Déjà, à la base, Patrick, je suis ton propos, mais pour démarrer cela, déjà, j'ai vu cette ligne de 4 offensive côté lillois qui empêchait notre défense de relancer et de préparer les différentes actions. Et ils ont été assez incisifs avec une ligne de 4 devant, 2 milieux, enfin un 4 de 4 à peu près, qui nous a assez gênés pour démarrer nos actions.
Ah oui, ils ont été très... On voit qu'ils avaient observé. Genesio, c'est un entraîneur qui a de l'expérience. On le voit en Coupe d'Europe.
Hein. Oui.
C'est un mec qui a de... C'est pas un hasard si le mec, il a battu l'équipe, il a battu Guardiola, il a battu Mourinho, il a battu Simeone, il a battu Ancelotti. C'est pas un hasard.
Que faire de mieux ?
C'est sacrément costaud.
Mais il n'a pas battu l'OM.
Voilà, il n'a pas battu l'OM.
Si on peut trouver une bonne position.
Oui, exactement, pardon. Mais donc, ils étaient très bien organisés. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en seconde mi-temps, quand il y a les changements, tous les mecs sont rentrés, ils étaient frais, bien sûr, mais ils ont apporté. Ils ont tenté, ils ont fait des trucs. Et c'est là que tu te rends compte alors qu'il leur manquait 4 ou 5 joueurs.
Dans un premier temps, Patrick, tout à fait. Déjà, l'équipe qui était présente du côté de Lille, avec 6 remplacements par rapport à leur match en Coupe d'Europe. Et je me disais, pétard, 3 jours après, bon, ces joueurs-là, je dirais, ont su suppléer de manière collective. Et bon, après, on peut justement souligner que certaines offensives de leur part, dont David, qui est le meilleur buteur du championnat, n'a pas pu concrétiser, n'a pas su, et heureusement pour nous.
Oui, parce que David, c'est un des rares joueurs lillois qui n'a pas de remplaçant de son niveau. Parce que Mohamed Bayo, c'est quand même assez limité.
Voilà, c'est le titulaire indiscutable à chaque match.
Et donc, du coup, il joue beaucoup. Il est peu remplacé. Et donc, au bout d'un moment, ça commence à fatiguer, effectivement. Surtout qu'il faut bien admettre qu'il joue mercredi soir en Ligue des Champions. Il rejoue samedi à 17h. La Ligue, une fois de plus, elle a fait des choix de calendrier qui sont surprenants parce que les autres clubs qui ont joué en Coupe d'Europe...
D'autres matchs ont été décalés. Parlons du Paris Saint-Germain, par exemple.
Voilà, et Brest et Paris Saint-Germain qui ont joué mardi soir, ils ont joué dimanche. Lille qui a joué samedi a joué... qui a joué mercredi a joué samedi. Et donc, c'est sûr que... Et Monaco aussi, d'ailleurs.
Oui.
C'est sûr que c'est... Un calendrier un peu space, parce que 24 heures de récupération, ça peut compter pour des...
Je vous ai espéré que l'on puisse en tirer bénéfice, et ça n'a pas été le cas, même si nous aurions pu, comme tu le dis, et je souscris à tes propos, le match nul, et quelque part, je dirais, reflète le match, même si on aurait espéré, on aurait pu penser... réaliser nos occasions et remporter ce match.
Voilà, disons que c'est un peu comme la semaine il y a 15 jours contre Monaco, où tu gagnes 2-1. Le match nul n'aurait pas été un scandale parce que Monaco a quand même fait un bon match, même si je les ai trouvés moins solides collectivement, plus doués, plus talentueux par leurs ailiers, des trucs comme par Golovin ou des trucs comme ça. Tu sens que les mecs sont très, très forts. Mais collectivement, Lille, c'est impressionnant.
C'était nettement plus performant.
Ah, ouais.
Et par là même, je dirais que paradoxalement, nous avons remporté le match face à Monaco. Mais je trouve que le match face à Lille a été peut-être une meilleure prestation de nos joueurs, même si le résultat lui-même n'aboutit pas à une victoire.
Voilà, exactement. Et... Tu as dit tout à l'heure ce qui est important, c'est qu'il a fait 6 changements entre le match de Ligue des Champions et le match de championnat. Les mecs ont fait le taf et les mecs qu'il avait changé, qu'il a mis sur le banc, sont rentrés. Ah et oui. Ces mecs-là, tu vois que c'est des joueurs de niveau Ligue des Champions parce que en seconde demi-temps, ils ont monopolisé le ballon, tu as eu du mal et tu as dû t'accrocher. Par contre, le gros regret tient dans le fait qu'il y a eu des décisions arbitrales
qui ont été
critiquées par tout le monde, puisque j'ai vu la déclaration de Genesio à la télé, enfin à DAZN, c'était à Bein Sport, pardon, c'était Bein Sport,
c'est ça,
le match sur Bein, qui a dit un match de ce niveau, c'était effectivement un super match, méritait d'être arbitré par un arbitre de qualité.
De Zerbi a eu la même évocation.
Les mêmes propos.
D'ailleurs, il a reçu une carte jaune, quoi.
Parce que l'arbitre, il a eu un arbitrage assez incohérent. Mmh. Heureusement que les mecs sont des mecs corrects, des deux côtés, parce qu'un match un peu plus tendu, il peut dégénérer complètement. Parce que l'arbitre, il laisse... d'ailleurs, on en parlait, mais... au stade, quand on discutait avec les copains, on a beaucoup râlé sur le coup franc qui amène le but de Lille, qui est sur une tacle de notre monde de Hubert, qui prend une jaune d'ailleurs sur l'action.
Oui.
Sauf que 3 minutes avant, le Lillois qui découpe.
Il se fait découper.
Il découpe Hubert, alors que l'arbitre laisse jouer parce qu'il y a une contre-attaque qui donne rien au demeurant. Mais
il n'est pas revenu pour avertir le joueur lillois.
Le mec, il vient à la charge, le pied à l'avant. L'autre, il fait une ouverture. Et l'autre, il lui rentre, il met une semelle, il le dégomme. Quoi.
Autrement dit, j'ai l'impression, comme tu le dis si bien, que l'arbitre, justement, n'a pas lâché le match. Mais il a perdu. Il l'avait plus en main.
Oui, oui.
Laisser jouer, c'est quelque chose que nous recherchons. Le jeu, en
oui,
lui-même,
oui, oui,
c'est
oui.
ce que nous souhaitons. Mais après, il faut tenir les rênes du match. Et je pense que certaines décisions totalement... Et De Zerbi et Genesio étaient unanimes quant au fait que l'arbitrage n'était pas justement à la hauteur
à
de
la
ce
hauteur,
match.
Pas du tout. Et il y a eu des actions. Quand on disait que le Lillois qui égalise Diakité, il n'aurait pas dû être sur le terrain quand il égalise à la 87.
Exactement ce qui m'est venu à l'esprit. Mais d'ailleurs, je n'ai pas entendu de commentateur ni d'intervenant justement le signaler. Alors que c'était tellement évident, ce n'était pas possible. Que je comprends l'énervement de Roberto
et
De Zerbi.
Voilà, et donc, et parce que je pense qu'au niveau télé, il y a des consignes de faire attention, de ne pas dire, de ne pas critiquer, de ne pas faire des trucs. Voilà,
tout à fait.
Ce qui est compréhensible. Mais il a laissé dégénérer parce qu'il y a deux, trois fois où... Alors, c'est le style de jeu. C'est-à-dire tu t'appuies sur ton avant-centre qui contrôle
voilà.
et qui remise et qui essaie de ce qu'on appelle faire remonter le bloc. Mmh. Il gagne du temps. Et chaque fois, le joueur au marquage, Diakité en général ou parfois Alex Sanko, l'autre défenseur central lillois, on fait faute, mais des ouais. fautes...
Que ce soit Mopé, en position axiale, ou Greenwood...
Oui, oui, oui.
Alors, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu
Des fautes grossières, du genre, je ceinture, et le mec, tu fais une prise de judo, il se retrouve par terre.
Il a mis un moment pour avertir Diakité.
Voilà, il a mis beaucoup de temps, et comme le mec, tu l'avertis pas, tu fais pas le classique, monsieur, la prochaine fois, c'est le rouge, vous sortez... Ben le mec, il continue. Quoi. C'est un défenseur. Il met des coups, on ne lui dit rien. Il continue à l'en mettre.
Ce qui a peut-être, alors je dirais, handicapé Mopé quand même, sur les deux occasions qu'il a eues, hein, dont la deuxième, il voulait tirer sur le poteau, ça l'a peut-être évidemment gêné. Ouais. Et puis, il était cuit aux olives.
Hein, oui, il était énervé, je pense.
Énervé,
parce que
forcément.
Plusieurs fois... Alors... Là aussi, il y a un problème. On en parlait avec des copains abonnés, puisque moi, je suis abonné au Virage Sud, aux Ultras. C'est que ce que des copains qui ont regardé à la télé nous ont dit, c'est que sur l'action fin de match où Rowe et Jonathan Rowe, qui avait remplacé Mopé, est ceinturé dans la surface, il est... Alors, il est balancé, bon, il en rajoute un peu, hein, il se fait...
Non, mais j'aurais bien aimé voir les ralentis
voilà.
que les diffuseurs n'ont pas
à la télé. Nous, on l'a vu, en plus, on l'a vu au stade, parce qu'un de mes copains, il a un programme qui fait que tu vois les images en direct, quoi. Il a un truc, et tu le vois, la faute est très nette. Alors, moi, je pense qu'il y a péno, évidemment.
Voilà, je l'ai revu un peu plus tard et j'ai le même sentiment, c'est une évidence,
voilà,
il y a péno.
Mais au moins, le VAR, au moins une intervention, tu vas voir, parce qu'on est quand même à un partout. Le match, il est tendu, il commence à partir en vrille et l'arbitre a laissé complètement. Il a fait signe non, les grands gestes, non, il n'y a rien. Alors... Je veux bien que sur Højbjerg...
Alors, la VAR est intervenue sur l'action litigieuse sur Højbjerg, qui se fait... Bon, évidemment qu'il y a une faute, bon, qu'on peut ne pas siffler, je peux le comprendre aussi dans la surface. Là, la VAR est intervenue pour vérifier l'action.
Oui.
Par contre, sur le face-à-face entre Rowe et Chevalier, là, par contre, il n'y a pas eu de décision prise, enfin, en tout cas, de visionnage de la VAR. Et par contre... Cette action-là, il y avait un pénalty beaucoup plus flagrant, d'après moi.
Oui, beaucoup plus net. D'ailleurs, même hier dans l'équipe, les mecs disaient... ils ont balancé un peu dessus. Mais c'est sûr que l'arbitrage a lourdement pesé. Alors que contre Monaco, et moi, on l'avait dit la semaine dernière, Turpin... Pourtant, à Marseille, on n'apprécie pas en général.
Plus
mais
qu'on
avait très intelligemment arbitré en sifflant la main de Mawissa, le défenseur monégasque, en la mettant sur la ligne de la surface, mais à l'extérieur, et en disant « j'attends le VAR qui visionne ». Et elle était bien dans la surface. Je pense qu'il avait très bien vu. Mais il s'est donné le temps, le calme. On se calme, on attend. La vision, oui, c'est dedans. Pénalty, voilà. Et là, il y avait, à mon avis, sur Jonathan Rowe, une faute qui méritait un péno. Et je pense que l'arbitrage, tu perds 2 points. Parce que, alors après, comme je disais...
Je suis totalement d'accord sur ces faits de jeu.
Sur l'ensemble du match, ouais. Le match nul n'est pas volé. Hein. Lille est une belle équipe. Mais quand même, 2 points, à ce niveau-là, ça compte. Oh oui. Et sur des, c'est pas la première fois qu'on est pénalisé par des décisions arbitrales. Voir le match contre PSG, le match à Lyon, ou des trucs comme ça. Et ça commence à faire beaucoup... Et
avec des scénarios différents, hein, citant
voilà, un scénario différent et qui renvoie à la réaction de Benatia qui a liké une image sur les réseaux sociaux qui critique l'arbitrage.
J'ai trouvé beaucoup plus calme à l'occasion de ce match. Il avait déjà essuyé quelques.
C'est-à-dire, il s'est pris 6 matchs voilà, pour avoir osé dire qu'un arbitre avait été mauvais. Il n'a pas envie d'en prendre 12, je pense.
Il faut garder même, une certaine réserve.
Voilà, même si le directeur sportif suspendu, il est en tribune, c'est pas ça qui va changer la face du match. Hein. Non, non, mais là, on a été malheureux là-dessus. Par contre, les leçons qu'il faut tirer, c'est vrai qu'on l'a vu quand il a fallu faire des changements. La sortie de Rongier a déstabilisé.
Voilà. Parlons
l'équipe.
Football, tout à fait.
Voilà.
Je pense que ça a été un événement, enfin, ces changements. Donc, Rongier était probablement assez fatigué. Je le conçois tout à fait. Le repositionnement de Kondombia au milieu de terrain, évidemment, était une perte défensivement, oui. Avec l'entrée de Cornelius et seulement, ça a été difficile de suppléer.
On rappellera à nos auditeurs que Rongier a été gravement blessé contre Lille, d'ailleurs, l'année dernière, oui. Qui, en novembre 2023, qu'il est revenu au mois d'octobre. Donc, il a pratiquement un an d'arrêt et que c'est
difficile
dur quand tu
d'enchaîner
reviens, voilà,
tous les matchs.
C'est dur d'enchaîner, surtout que le rythme, si les auditeurs ont vu le match, le rythme était très intense.
C'était plus que cela. C'était ouais. Évidemment un match vraiment tout foufou.
C'était un match de flamme. Ligue des Champions. Ça passait d'un côté à l'autre en permanence. C'était très engagé. Donc, il a dû sortir. Il a estimé que Kondogbia au milieu avait plus le profil pour remplacer Rongier.
Oui.
Il a certainement pas tort parce que Harit qui revient de blessure et Koné qui a été longtemps blessé, qui a très peu joué, risquait de manquer de rythme.
En même temps, Harit, pour garder le ballon, mais pour les récupérer, voilà, pour la maîtrise, c'était compliqué.
Pour aller au duel et au combat, c'est pas son fort. Donc, il a préféré faire monter Kondogbia et faire rentrer Cornelius, stopper gauche.
Ouais.
Sauf que Cornelius revient lui aussi de blessure. Et ça s'est vu par moment qu'il était un peu court. Voilà, donc
on peut le dire.
Voilà, il a eu une rentrée difficile. Heureusement que Murillo et Balerdi et Rouli dans les buts ont fait le boulot.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'on a été un peu en difficulté. Et ça montre que tu as, dans des matchs de cette intensité, ton banc est léger. Voilà, parce que Nadir est rentré, je suis très content de le voir.
Complètement d'accord.
C'est un jeune qui lui aussi revient d'une très grave blessure.
Avec un fort potentiel. Et
voilà. On rappelle qu'il a été blessé en janvier 2024 à Rennes en Coupe de France.
De blessure avec Rongier.
Voilà, il s'était fait les croisés, donc il revient à peine, il a fait 3-4 matchs où il rentre 5-10 minutes. Il est rentré, il a fait le boulot, il a combattu avec les collègues. Et c'est vrai que tu te rends compte que tu es un peu léger, que tu n'as pas pu faire rentrer un joueur qui aurait pu être le déclic et qui aurait pu mettre le feu. Parce que je pense que De Zerbi n'a pas voulu faire rentrer Wai ou des trucs comme ça, parce qu'il a pensé que vu le match, ça serait difficile.
C'était compliqué.
Pour eux,
bon, voilà. Niveau crédit, de se ramener à cela, non, c'était trop compliqué de lui donner.
Il a fait rentrer Jonathan Rowe, qui a fait une bonne rentrée, qui s'est bien battu, qui aurait mérité, à mon avis, un pénalty. Mais bon, ajoutons.
Je confirme.
Dans le genre erreur d'arbitrage, dans la catégorie, Alors, j'ai revu l'action à la vidéo. Le tacle de Lirola est rugueux. Et plus que. Bon, il est à 60 mètres des buts de l'OM. Il tente un tacle où il touche le joueur, il met une jolie semelle.
Oh, le rouge est indiscutable parce qu'il était. Voilà, on peut l'interpréter, mais le fait est, c'était trop spectaculaire et par derrière, c'était assez dangereux.
Mais disons que c'est dans le contexte du match où lui venait de rentrer, où ça a commencé à donner, à mettre les semelles et à mettre bien les pieds.
On en revient à l'arbitrage qui n'était pas tenu.
Qui n'a pas tenu son match. Le carton rouge est un peu rude, il aurait pu, et il n'a pas voulu, puisque vu qu'il n'a pas mis à Diakité, qui a fait des fautes pendant 100 minutes, il aurait peut-être pu,
s'abstenir
de mettre un rouge, lui mettre un simple jaune, en lui disant, la prochaine faute, vous dégagez. Quoi.
C'est le côté spectaculaire qui l'a desservi.
Disons qu'un bon arbitre, normalement, il fait ça. Quoi. Mais bon, c'est vrai que la faute était un peu... Et d'autant plus que... Tu es largement dans le camp de Lille, tu es à 70 mètres même du but de l'OM. Tu as des joueurs derrière, enfin, il n'y a aucune raison de faire un tacle comme ça. Mais je pense que le match était en train de partir un peu en vrille.
C'est complètement ça.
Parce qu'il y a eu, y compris...
Il y a eu des actions précédentes, l'intervention de Lirola qui était plus que limite et où nous n'avons pas eu les bénéfices des fautes. Quoi.
Voilà, et disons que même si le jaune qu'a pris Højbjerg était mérité, il fait un tacle. Hein. Oui. Je pense qu'il règle ses comptes. Mais il n'y a pas eu dans l'autre sens, alors qu'il y a eu les mêmes fautes. Il y a eu deux Lillois qui ont pris des cartons, mais pour des... où tu sentais que le match était en train de partir en vrille. Justement. Et c'est là que l'arbitre a été mauvais.
C'est-à-dire cette animosité, a été créée dans ce contexte par un arbitrage qui n'était pas en pleine mesure de ce match-là.
Voilà. Et je pense que l'arbitre, il aurait dû arrêter, appeler les capitaines, on se calme, faire un truc.
Il me semble.
Parce que là, ça commençait à la fin, ça commençait... à devenir assez dur. Et heureusement que les deux équipes ont des bonnes mentalités, qu'il n'y a pas eu de mec qui a mis la merde. Quoi.
C'est ce qui a sauvé la situation.
Voilà, exactement. Mais bon, on retiendra le positif. On a fait un gros match.
Oui.
Et je pense, d'après les échos, alors là, je parle des réseaux sociaux, des médias, de l'équipe, des journaux, de RMC... qui a été reconnu comme un vrai match de Ligue des Champions par à peu près tout le monde.
Je le partage.
Voilà. Et ça, c'est le positif. On a su répondre, parce que quand ils ont pressé en fin de match à 10 contre 11, c'était pas évident. On a tenu. On a jamais été vraiment...
Solidarité de l'équipe.
Voilà. L'équipe s'est battue. Même, les copains me faisaient remarquer, même Greenwood a fait un gros travail défensif. Il est beaucoup redescendu.
Nous attendons de sa part, justement, qu'il soit fort offensivement. Mais là, il a été assez complet. Peut-être qu'il n'était pas à la mesure de son talent sur ce match-là, mais il a donné beaucoup au niveau défensif également. Chose qui m'a surpris un petit peu, mais qui a été, à sa décharge, quelque chose de très positif.
Comme tu le dis, il a beaucoup travaillé. Donc forcément, quand tu travailles et que tu redescends beaucoup, tu manques un peu d'influx quand tu arrives dans les zones de vérité, qu'on appelle. Mais en tout cas, il a fait un gros match. Il a été... On sent qu'il y avait une équipe. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai apprécié. Il y avait une équipe. Il y a un groupe qui est resté soudé. L'inconvénient, c'est que tu perds 2 points. Ça te laisse l'occasion d'écarter Lille à 3 points.
Là, on peut parler de cela. On n'a pas pris 1 point, on a perdu 2 points. Je pense qu'on peut être unanime à ce sujet-là.
Et on serait toujours à 5 points de Paris. Là, on a lâché les points. Et je pense que ce qui est malheureux, même si, je le redis, sur le vu du match, le nul n'a rien d'un scandale. Hein.
Oui, on peut relativiser, évidemment, mais bon.
C'est pas le hold-up du siècle, mais quand même, toujours ce truc sur l'arbitrage où on a le sentiment qu'on n'est pas arbitré comme les autres et qu'on n'est pas aimé, quoi.
ce ressenti-là est assez éloquent parce que je suis totalement d'accord avec cela. Je voulais en profiter pour faire la parenthèse des matchs qui se sont joués lors de cette 15e journée, ce week-end, avec justement vendredi, Toulouse et Saint-Étienne, évidemment, se sont rencontrés, me semble-t-il, mais du coup, ça m'a échappé.
2-1 pour
c'est
Toulouse.
C'est 2-1, c'est Toulouse qui a remporté ce match. Voilà. Avant que nous retrouvions Saint-Étienne et Geoffroy Guichard le 22 décembre au 32e de finale de Coupe de France. Voilà, donc samedi, évidemment, on a commencé la journée avec OM Lille, nous venons d'en parler, avec match nul 1-1. Auxerre a fait match nul 2-2 face à Lens. Auxerre est toujours présent dans ce haut de tableau et Lens commence un petit peu à décrocher. Reims, évidemment, nous a rendu quelque part un petit peu service en faisant match nul au score de parité 0-0 face à Monaco. Dimanche, Montpellier et Nice ont fait match nul, pareil, bravo à Montpellier. Et Nice coince un peu la bulle. Or Brest, et je dis bravo à Brest, parce que toujours présent et toujours cette force, malgré ces matchs de Coupe d'Europe qui sont très intenses et énergivores, qui a battu 4-1 le FC Nantes. Et le Havre, à domicile, équipe que nous allons rencontrer prochainement, aux prochaines journées de championnat après la trêve, a perdu 3-0 à domicile face à Strasbourg. Voilà. Ensuite, Rennes reprend un peu de poil de la bête face à Angers, qu'ils ont battu 2-0. Et hier au soir, paraît-il, et je n'ai pas vu le match, on peut en parler. En tout cas, Paris Saint-Germain a gagné 3-1 face à Lyon. Et Lyon, qui est une équipe qui ne démérite pas, qui a de très belles équipes, mais en tout cas, qui n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain pour l'instant. On peut retrouver au classement justement, le Paris Saint-Germain est toujours leader avec 37 points. Évidemment, ils nous ont mis quelques points dans la vue, nous sommes deuxième avec 30 points, ainsi que l'AS Monaco, nous sommes deuxième et eux troisième avec un goal average un peu moins.
Un peu supérieur,
voilà. Et Lille, dégageons les points positifs qui ne nous ont pas rattrapés, qui sont à 3 points avec 27 points. Et Lyon, hier soir, qui a fuyé un petit peu avec cette défaite, qui est à 25 points à la 5e place. Donc,
sur le bon, alors je précise que je l'aurais regardé quand même, je veux dire, sur DAZN, le match hier soir.
Ouais.
Paris en Ligue des Champions, c'est léger. Mmh. Dès que tu tires le Bayern ou Arsenal, tire des grosses pointures.
Ils ont été encensés par les médias après leur victoire face à Salzbourg, qui est pas une très grosse équipe, c'est le moins que l'on puisse dire.
Voilà, moi je regarde un peu la télé, j'écoute RMC, je regarde l'équipe et tout. Quand on a gagné à Saint-Étienne 2-0. Les commentaires étaient « Oui, ils ont bien joué, mais Saint-Étienne, il y avait des gars en face.
» Ils appuyaient sur l'opposition, ce qui n'a pas été le cas de Paris Saint-Germain face à Salzbourg.
Salzbourg, je ne suis même pas persuadé qu'ils soient aussi bons que Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons, les mecs. Hein. Et donc, ils leur ont mis 3-0. Par contre, moi, j'ai pas voulu, pour des raisons personnelles, je n'ai pas voulu regarder ça. J'ai regardé Brest contre Eindhoven.
J'ai fait la même chose que toi.
Voilà. Un combat de tous les instants, ils se sont battus sur tous les ballons, une belle équipe, et qu'ils arrivent, après, 4 jours après, à mettre 4-1 à Nantes.
Extraordinaire. L'équipe de Roy est un groupe fabuleux.
Eux, par contre, leur bang, il est léger. Quand tu regardes les mecs qui rentrent, tu dis, qui c'est celui-là ? Voilà. Et donc, par contre, ils jouent bien, ils ont un cœur énorme. Ils n'ont rien volé, et ça, c'est vraiment une belle équipe. Et c'est une équipe. Après, c'est sûr qu'au niveau talent pur, comme au niveau fiche de paye, ça n'a rien à voir avec...
Si c'est relatif, mais voilà. Enfin...
Avec le PSG. Mais par contre, qu'est-ce que ça joue bien ? Qu'est-ce que c'est une équipe sympa ? Franchement, les clubs français en Ligue des Champions, Monaco, ils ont été
ils sont un petit peu en dedans
oui,
en ce moment.
En ce moment, ils sont un peu en dedans. Mais Brest et Lille ont été vraiment excellents. Ils ont fait des gros matchs. Et au moins, ils ont le mérite de ne pas avoir de grandes stars, de ne pas avoir des salaires monstrueux et de ne pas se prendre pour Dieu. Quoi. Parce que on regardait une interview de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, hier. J'ai l'impression que c'est la meilleure équipe du monde, que voilà, c'est formidable, fantastique.
J'ai du mal avec sa communication, du fait que pour lui, par exemple, si je synthétise son propos, il n'a jamais connu ça avec n'importe quel club, il n'a jamais eu une équipe aussi forte. Ah bon, nous sommes qu'à la au milieu de cette saison, et lui voit déjà, ouais. Il tire
On rappelle quand même qu'il était l'entraîneur du Barça en 2015 quand ils sont gagnés la Ligue des Champions
avec la Coupe d'Espagne,
le championnat,
ouais, rien que ça.
Mais... Avec une ligne d'attaque, Messi, Luis Suarez, voilà. Neymar.
Rien que ça.
Donc, à mon avis, il a besoin d'aller voir un ophtalmo, parce que s'il pense que Dembélé, c'était Kang In-li et Désiré Doué qui ont commencé le match en trio d'attaque hier soir. Même si Doué a fait un bon match.
Oui, bien sûr.
Et que Dembélé, comme d'habitude, il a fait du Dembélé, il met le feu, mais après, il ne sait pas faire une passe, il ne sait pas cadrer un tir.
Pour la conclusion des actions, voilà. C'est un peu plus compliqué.
Enfin, en tout début de match, il en a mis un qui a été très important, parce qu'il a, il a calmé tout le monde. Mm-hmm. Mais si disons
mais comment
que si...
comparer cela et comment tenir de tels propos.
Voilà, comment tenir des propos pareils.
Je veux bien que les encourage et je comprends que cet homme qui est véritablement dogmatique, qui ne veut pas sortir de ses idées de football, contrairement, si je puis me permettre, à notre entraîneur, Roberto De Zerbi, qui lui a justement cette intelligence. Je ne dis pas que Enrique ne l'est pas, mais il peut... avoir un éventail beaucoup plus large au niveau de son jeu et de ce qu'il attend de ses joueurs.
Voilà, et on le voit quand même, parce que si tu regardes le match de samedi soir contre Lille, ton but, c'est un contre.
Oui.
C'est un contre ultra
la transition.
Rapide. Une transition
parce que
rapide.
Guardiola ne veut pas dans son équipe.
Voilà, avec des milieux, c'est en l'occurrence Rabiot qui a fait un appel en profondeur. Et qui, moi je pense qu'il avait vu Merlin qui arrivait, qui
voilà,
l'a appelé.
J'aimerais qu'on appuie un peu sur ce but, que j'ai trouvé fabuleux.
Ah oui, c'est-à-dire une action où tu as Murillo qui relance propre. Ça, c'est risqué des fois de relancer propre, mais des fois ça paye. Un très beau 1-2 entre Mopé et Luis Enrique.
Enrique, justement.
Enrique qui lance Rabiot, qui lui a fait un appel sur le côté droit. Rabiot qui s'avance, qui fixe la défense. Et qui, à mon avis, voilà. il avait vu
Et très bel appel de Mopé, justement, qui a permis de s'engouffrer Rabiot et de récupérer ce ballon, qui a permis de servir Merlin.
Alors,
quel joueur, quelle finition.
Qui contrôle et qui panique pas, qui crochette. Et qui ajuste le gardien. Soit en passant, Lucas Chevalier, très bon gardien.
Ah oui.
Très, très bon gardien qui leur a aussi sorti quelques ballons aux Lillois, qui n'est pas pour rien dans le match nul. Hein.
Ben, je ne sais pas si on n'a pas vu une confrontation des deux meilleurs gardiens de notre championnat cette année.
Ah oui, à l'heure actuelle, oui. Avec la méforme et la déstabilisation, je dirais, de Donnarumma, on a certainement les deux meilleurs gardiens du championnat qui étaient hier soir, qui étaient samedi au Vélodrome. Hein.
La déstabilisation, c'est un terme très bien choisi.
Oui.
Comment jouer avec ces gardiens de but ce n'est pas un poste comme les autres. Un gardien de but, il faut lui laisser la confiance et ne pas le changer à tel ou tel match, pour telle opposition, pour telle circonstance. C'est un rôle particulier, le gardien de but.
Oui, tout à fait. Et pour revenir sur Donnarumma, juste une petite parenthèse, c'est un gardien à l'italienne, c'est-à-dire excellent sur sa ligne, très bon réflexe, mais qui a une faille sur les sorties. Alors après, quand il joue en équipe d'Italie, on te dit qu'ils sont champions d'Europe à 21, oui. Mais il avait une défense avec...
Malgré sa taille, dans les sorties aériennes, c'est pas la sécurité
mais,
sociale.
Mais il avait Bonucci et Chiellini devant lui.
Oui.
Et de la tête, Bonucci et Chiellini, tu prenais pas un ballon. Quoi.
Il y a des remparts devant lui.
Lui sortait pas, mais il avait des défenseurs. Alors, avec la Chiellini, hein, tu fais la faute, tu pousses un peu le mec, tu mets un coup avant, enfin bref, le pied sur le talon, enfin bref, bon, à l'italienne. Et donc, il travaille assez peu. Ton boulot d'entraîneur, plutôt que de le critiquer et de le mettre sur le banc pour un match à Arsenal en Ligue des Champions, enfin Arsenal, non, il a été oui, mauvais, mais à Munich. Plutôt que de faire ça, tu le fais travailler.
Comment mettre en confiance un gardien de but qui est quand même expérimenté.
Voilà,
c'est presque une punition.
Qui a même été meilleur gardien du monde, enfin, qui a eu des meilleurs joueurs, de meilleurs gardiens de l'Euro.
Au-delà de son statut, tu déstabilises ton gardien de but.
Surtout que le mec que tu as mis à la place, hein, Safonov, il est pas, moi, il ne m'a pas fait l'impression d'être une pointure. J'ai trouvé cette solide gardien, mais enfin, pas extraordinaire. Enfin, c'est le problème du PSG.
À chacune sa salade interne. Voilà, exactement.
On remarquera que De Zerbi, et ça c'est à son avantage et c'est un compliment, il a su se remettre en question. Parce que moi qui regarde beaucoup la Première Ligue, et d'ailleurs, hier, j'ai vu un match, tu te dis Manchester City, ils sont dans le trou.
Le derby des Mancuniens.
Ah ouais. Mais quel match. Mecs, ils sont maudits, je veux dire vraiment. Mais bref, passons.
La City, c'est pas super. Ouais. Les Reds en ont fait de la limonade, presque.
Oui, mais quand tu regardes le match, c'est dans la tête. Parce que quand tu mènes un 0 à la 85e, tu concèdes un pénalty inutile. Le mec, il est excentré, il a un mec devant, il a le gardien sur la ligne, il ne peut pas faire grand-chose. Tu concèdes un pénalty idiot, ils viennent partout, tu attaques et tu te fais prendre sur une contre, tu ne sais pas d'où il sort, mais parce que tu n'es pas positionné, enfin, je veux dire, c'est pas de la malchance, c'est des erreurs, mais enfin, tu ne dois pas perdre ce match-là, ce n'est pas possible. Mais bon, donc je parlais de la Première Ligue, j'avais vu Brighton avec De Zerbi entraîneur, ça jouait pas pareil. Ça jouait en 4-2-3-1, avec un 10 derrière l'avant-centre qui était un organisateur. Carboni s'étant fait les croisés, il est out, c'était lui qui devait tenir le poste. Harit a été blessé lui aussi, puis il est un peu trop mangeur de ballon, il n'est pas assez rapide dans les ouvertures. Il a su changer son équipe.
Il a su changer son fusil d'épaule et réadapter finalement sa science tactique et son envie de jeu et sortir de son projet de jeu. Non, c'est on est toujours dans cette idée, mais il n'est pas dogmatique comme Luis Enrique, qui lui, par contre, il ne veut pas en sortir. Quoi. On n'a pas de 10, on joue sans 10, ou quelqu'un fait office, et nous avons les côtés, nous avons... et pourtant, il n'y a qu'à voir Merlin, sa réalisation, auquel on n'a pas développé cela.
Il a remarqué que son arrière-gauche, Merlin, donc, n'est pas un super défenseur. Enfin, il fait le boulot quand même, hein, mais enfin, il n'est pas nul, mais il est un peu très offensif. Il le fait jouer en milieu. Il a replacé Luis Enrique couloir droit alors qu'il est gaucher et qu'il a fait une très bonne début de saison ailier gauche. Il le remet parce que Luis Enrique travaille énormément. Alors oui, il laisse de la gomme, c'est sûr, mais il fait un boulot défensif qui aide sur le côté. Il joue latéral droit, quoi. Voilà, d'une défense à 5. Et il a mis donc Rongier, qu'il a relancé, qui apporte beaucoup de stabilité avec Højbjerg. Et il a recentré et Greenwood et Rabiot. Greenwood, recentré, il a moins de tâches défensives que Ailier, où il fallait qu'il change son latéral. Maintenant, c'est Luis Enrique qui le prend au marquage.
Absolument.
Et donc, on l'a vu d'ailleurs hier, quand... je crois qu'il est islandais ou suédois, Gudmundsson, l'arrière-gauche de Lille monté. Luis Enrique, il a passé son temps à faire le va-et-vient.
La navette,
voilà, il a fait un gros boulot. Pas spectaculaire, mais il a fait le travail. Et je pense qu'il a su bien recréer son équipe avec Mopé comme titulaire, qui correspond dos au but, quand il n'y a pas un mec qui lui met des coups derrière ou qui le ceinture, qui correspond à ce que tu as besoin. Contrôler le ballon, le garde,
c'est s'adapter. On n'a pas l'avant-centre, je dirais, de profondeur, et on n'a pas ce jeu que l'on peut justement faire avec un attaquant comme cela. Et c'est exactement ce qu'il faut pour l'instant.
Voilà, et alors que quand il entraînait Brighton, leur avant-centre, l'Irlandais, là, Ferguson, et Ewan Ferguson, c'est un jeune Irlandais, international irlandais, Irlandais du Sud, était plutôt le mec puissant en profondeur.
Et il y avait un numéro 10 derrière, et il y avait des ailiers.
Il y avait un 10 derrière, et voilà. Et donc, ils avaient un mode d'organisation différent, et il a su s'adapter. Et je pense qu'y compris le stage de cohésion qu'ils ont fait à Malemort il y a 8 jours, a été très utile.
Qui porte ses fruits. Voilà. Et en même temps, justement, je trouve qu'on arrive à... Et je pense qu'il doit être content de son équipe, je parle de Derby, par rapport à leurs prestations et la progression constante dont ils font preuve. Alors, peut-être, petite parenthèse, puisque, bon... sous l'égide de Balerdi et évidemment encadré par le staff technique, les joueurs de l'Olympique de Marseille sont partis au Danemark. On aurait pu penser que ce soit Holberg qui invite tout le monde, mais ils ne sont pas partis pour les vacances, ils sont partis pour passer du temps ensemble. Ça va remettre un petit peu et continuer cette envie de vivre ensemble, de jouer et de créer et de gagner.
Voilà, parce que oui, c'est vrai qu'on se rend compte que tu as vraiment une équipe. On parlait de Brest tout à l'heure en Ligue des Champions, tu vois un groupe. Là, tu vois un groupe. Et je pense que c'est intéressant. Ça nous ramène, on en dira juste un petit mot, sur le mercato de janvier. Mmh. Alors, avec le problème, parce qu'on en parlait beaucoup au stade samedi après-midi dans le virage avec les collègues, si tu veux acheter, il va falloir dégager.
Et voilà.
Tu ne peux pas te permettre d'avoir un Wailly, un Brassier avec les salaires qu'ils ont, qui restent. Il faudrait... Mais après, encore faut-il arriver à...
Compliqué, ce jeu des chaises musicales.
À mon avis, tu les vendras pas parce qu'ils sont en échec. Mais il faut essayer de les prêter. Parce que Brassier, visiblement, samedi, il fait rentrer Cornelius qui revient de blessure et qui manque de rythme. Il ne fait pas rentrer Brassier. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance.
Eh oui.
Voilà. Ça veut dire que le mec, comme on a eu l'occasion de le dire à ce même micro, il transpire à la peur. Et un match comme ça, tu ne peux pas te permettre d'avoir un mec qui merdoie, quoi. Donc, il va falloir sortir du monde. Mais il faut, je pense, offensivement, il faut trouver un élément qui t'apporte. Parce que est-ce que Wailly reprendra le dessus, il reprendra, je ne sais pas. Il le gère pas mal en le faisant rentrer en fin de match, en l'encourageant. Mais là, samedi, il faut aller au combat. Quand il fait le changement, ils viennent d'égaliser. Mm-hmm. Quand Rowe rentre, il préfère faire rentrer Rowe qui est un combattant que faire rentrer Wailly, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Surtout quand il y a des centraux qui jouent dur.
Et en même temps, ça aurait pas été lui rendre service de le faire entrer à ce moment-là, sur ce match-là. Ouais, c'était du pain sur la planche pour, je dirais, le staff olympien. Quand il y a sur la valse du mercato, quand il y a avoir des changements, des arrivées, des départs qui sont... Objectivement, il ne peut pas y avoir d'arrivée sans départ. Donc, on va bien voir cela assez rapidement.
On rappelle que contrairement à certains clubs, dont l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils parlent beaucoup de Thiago Almada, Thiago Almada, ils ont recrutement interdit, masse salariale contrôlée.
Ils ne peuvent pas, il y a le NCG qui est à la gâchon.
Soit ils vendent Fofana ou ils vendent Cherki, soit ils ne peuvent pas le prendre, quoi. Il y aura forcément un problème. Nous, on peut, mais est-ce que financièrement, on peut? Est-ce qu'on peut assumer des joueurs qui ont coûté cher, qui ont des salaires, ils ne sont pas au SMIC, et qui sont sur le banc et qui ne joueront plus?
Trouver le bon équilibre. Voilà,
Donc il faudrait essayer de prêter. Je pense que ça va être un jeu d'équilibriste compliqué.
Oula, que oui.
Il ne faut pas attendre de miracle. Et pour revenir à un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, pourquoi il ne fait pas confiance aux jeunes, le petit Kélian Abdallah, le petit Enzo Sterna et tout. Je ne crois pas que ça aurait été un cadeau de les faire entrer samedi dans le contexte bouillant du match, qui était un match dur, avec des joueurs durs. Je ne pense pas que ça aurait été un cadeau d'envoyer les gamins. Quoi.
Non, il ne faut pas.
Voilà, tu peux les mettre en difficulté. Ça n'aurait pas été positif pour l'équipe. Et pour eux, à titre personnel. Voilà, tout à fait.
Savoir gérer ces hommes et également ne pas, justement, nos petites pépites, les envoyer au feu avant qu'ils soient prêts.
Voilà, en notant sur les petites pépites que la nouvelle génération de la gamme Bardella s'est qualifiée hier en gagnant à Cannes 4-1. Je n'ai pas encore le retour sur le match. J'ai un copain qui a dû le voir, donc il m'en parlera un peu. Mais bon, c'est une nouvelle génération. Il y a très peu d'anciens. Et c'est beaucoup de jeunes qu'on connaît. Il y a Bacola, qui vu son âge, est toujours présent.
Oui, qui peut encore disputer la Coupe Gambardella.
Voilà, il y a un jeune qui s'appelle Milan Lecces, dont on parle beaucoup, qui est un U16, qui est surclassé, donc lui. Et qui est, paraît-il, très bon, mais je n'ai pas encore eu les retours.
Seront-ils aussi performants que la saison passée? Un doublé serait...
Ça, c'est difficile. Ouais. Hein, c'est très compliqué.
Mais enfin, nous l'espérons de tout cœur.
Ah oui, c'est sûr. Mais bon, ils se sont bien qualifiés. Et les jeunes, il faut les monter. J'en parle par rapport à l'interview qu'a fait Benatia, où, entre autres, il explique... Il explique, en gros, il dit, on va schématiser, à eux de me montrer qu'ils ont leur place. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il faut gagner la place. Tu vois qu'ils ont du ballon, tu vois qu'ils sont talentueux, mais à eux de te montrer que, oh, je tape à la porte, et je pense que De Zerbi est un entraîneur qui a prouvé que si le mec, il lui prouve quelque chose, il le fait jouer. Mais là, pour l'instant, ils sont, sur le banc.
Une sale engouement qu'ils génèrent, voilà. Car aucun d'eux, justement, se dit « Pétard, on ne nous donne pas nos chances, etc. » Beaucoup avaient cet état d'esprit, mais ce n'est pas chez nous que ça se passe.
Oui.
Ils ont l'espoir, et je le comprends tout à fait, d'accéder au plus haut niveau, à l'équipe première. Mais en tout cas, on ne les brûle pas d'entrée et on laisse le temps. Et ils sont toujours présents avec cette envie. Quoi.
Voilà, et là, le message qu'il aura envoyé Mehdi Benatia, c'est montrez-nous à l'entraînement, à l'entraîneur, parce que c'est d'abord l'entraîneur qui décide, que vous pouvez prendre une place dans l'équipe. Et ça, à eux de franchir le cap.
Ben, il faut laisser le temps au temps et il ne faut pas se précipiter non plus. C'est que la première année qu'on a instaurée et ces joueurs, justement, vont pouvoir sortir prochainement, la saison prochaine, certainement. En attendant, on n'est pas si mal que cela.
Oui.
Et le projet est en bonne voie.
Voilà. Et... il leur manque peut-être un peu de franchir un palier au niveau engagement, niveau confiance. Il n'y a pas que le bal, il n'y a pas que la technique. Et c'est vrai qu'après, entre
c'est un ensemble
la Gambardella et le National 3 et la Ligue 1, surtout des matchs comme samedi, sont des matchs de Coupe d'Europe.
Mais d'ailleurs, notre équipe réserve National 3, je crois qu'ils ont fait match nul face au Canet. Bon, c'est pas un petit coup de frein, mais en fait, ils sont toujours
troisième. Mais je pense que, d'après ce que j'ai lu, Jean-Pierre Papel, entraîneur de la réserve, avait fait le choix, enfin, c'est le staff de la remplaçant, de mettre en particulier Robinho Vaz, l'attaquant, qui est le meilleur buteur de l'équipe, qui a été suspendu et qui a pu rejouer, de le mettre en Gambardella. De le mettre dans l'équipe, de le faire jouer là où il y avait une qualif, parce que c'est vrai que la réserve, c'est la réserve.
C'est la réserve, voilà. Donc il faut optimiser le potentiel de chacun et les faire participer au match auquel ils doivent.
Donc tes meilleurs joueurs, Bacola, Vaz et tout, ils étaient avec la Gambardella. Mmadi et tout, ils étaient avec la Gambardella.
Avec cette nouvelle génération qui voilà. les côtoie. Et...
Donc tu affaiblis un peu offensivement ta réserve, qui peut-être a fait un 0-0 au Canet, peut-être que si tu avais privilégié, mais l'objectif, il est bien d'aider les jeunes à franchir des paliers, à progresser. Et puis là, il y avait une qualif à prendre. Il fallait
voilà,
y
il
aller.
Il faut rester sur une optique collective voilà. et aller tous dans le même sens. Voilà. Ben, on va peut-être parler également de ben, notre équipe féminine, hein, l'Olympique de Marseille, qui a repris son boulot. Mais là, par contre, quelle qualification en Coupe de France face à Nîmes, hein, qui est en Régional 3, je crois.
Troisième division.
Ça correspond à la troisième division. D'accord. Et donc, l'OM emporté à Nîmes. Waouh. 10-0 ce match. Ouais. Quel match. Alors, je ne citerai pas le nom des buteuses, mais alors, waouh.
Voilà, oui. Et...
Elles ont été prolixes.
Voilà. Et on va donc les féliciter pour la qualif.
Ah ben oui.
En coupe, c'est que ça qui compte. Et puis, on va dire un petit mot. Alors, un positif au Bagne, en national.
Ah, que oui. Oh, que oui.
Qui allait gagner 7-2.
7-2 face au dernier championnat, au Castelroussien, quoi. Face à Châteauroux, pardon.
Oui, oui, oui.
Donc, voilà, c'était la 15e journée. Je crois qu'ils ne sont pas si loin, ils sont 7e au championnat de national.
Ils sont bien placés, ils sont en confiance pour le maintien.
Ils sont à 2 points du 4e ou du 3e. Voilà. Et n'oublions pas les 4 pions qu'ils ont plantés au premier du championnat de national la semaine passée.
À Nancy, la semaine dernière.
Ah ouais, c'était fabuleux, quelle équipe.
Oui, oui, là, ils sont en bonne forme. Eux, c'est formidable. Malheureusement.
On va parler de Martigues.
On va parler de Martigues, qui semble prendre le chemin pour un retour en national. Parce que là, ils se sont fait taper...
Face à 3, 4-0.
Voilà.
Pour la 16e journée de championnat, je pense que la messe est dite. Parce que là, les profondeurs du classement,
oui.
C'est abyssal.
Oui, on rappelle à nos auditeurs que 3, ils étaient 16e sur 18. Mm-hmm. Donc, barragistes.
Eh oui.
Que tu vas jouer chez eux, que toi, tu es dernier. Donc, il va falloir essayer de gratter un point. Et tu te prends une 4-0. C'est rude. Et surtout que Martigues est interdit de recrutement.
Voilà.
Il y a une masse salariale encadrée. Donc
on pouvait imaginer qu'ils puissent se renforcer, mais non, ils sont interdits de recrutement. Évidemment que là, on peut parler de fin des haricots. Et
voilà.
Le stade Turquin, on les retrouvera peut-être en national l'année prochaine,
voilà.
Ça c'est sûr.
Et même sur des prêts, se poserait la question, vu l'encadrement de la masse salariale, du salaire.
Ah, voilà.
Trouver un club qui te prête un joueur en le payant pour qu'il joue gratuit chez toi, c'est...
Il faut avoir de bons copains.
Alors. Ah oui, il faut avoir de bons amis, quoi. Voilà.
Oui, plus que cela, ouais.
Voilà, ça va être compliqué, sachant que tu peux même pas dire changer d'entraîneur. Je pense pas que Thierry Lauré est responsable. C'est que les trois quarts de l'équipe est très limité pour la Ligue 2. C'est vraiment faiblard. Parce que même s'ils ont joué sur terrain neutre, puisqu'ils ont joué au Vélodrome et puis à Guignon, leur match de championnat, Turquin ne sera disponible qu'en janvier après les travaux de régularisation des conditions de match, éclairage et compagnie. Même si tu joues sur terrain neutre, c'est un terrain que tu connais, sur lequel tu peux prendre des repères.
Oui.
Et tu rencontres les équipes qui n'étaient pas extraordinaires et tu as perdu.
Bon, la situation est irrémédiable dans leur cas.
Alors, on peut toujours rêver parce que des miracles existent. Quoi. Mmh. On en parlait d'ailleurs samedi, on parlait de Montpellier qui est une équipe qu'on aime bien parce que c'est Gassé l'entraîneur.
Ouais, mais qui a fait une belle prestation.
Oui, oui, qui font un bon match, qui font un bon match nul. Parce que Nice, c'est une bonne équipe.
Voilà, hein. Parce que deux face à Nice, ne l'oublions pas, c'était pas évident au
départ. Pour l'instant, n'ont pas la chance de, des fois, tu fais 2-2, tu peux gagner 3-2 ou 2-1, avec beaucoup de chance, un peu de réussite, là, ils l'ont pas. Et donc, ils se battent, mais ils sont pas, à mon avis, ils sont pas largués. Mais eux aussi, ils ont un problème de mercato. Pourront-ils recruter?
Oui. mais ils n'ont pas baissé les bras. Contrairement à Martigues, leur homologue en Ligue 2.
Voilà, où Martigues, tu sens que dans la tête, les mecs, ils ont lâché, quoi. Parce que à 3, qui est quand même 16e, tu ne prends pas 4-0. Quoi.
Ah oui, bah là, ça devient irrémédiable une fois de plus. C'est...
Après, je ne vois pas sur quoi ils pourront jouer. L'entraîneur, bien sûr. Là, on a eu Saint-Étienne qui a viré Dalloglio. Il faudra m'expliquer que, pour avoir vu le match au OM Saint-Étienne...
Ça ne va pas changer grand-chose.
Voilà, il y a 15 jours, pour m'expliquer que le mec, il n'est pas bon. Il m'a expliqué que les joueurs ne sont pas au niveau.
Voilà. Ben, on ne peut pas virer tous les joueurs. Hein. C'est toujours l'entraîneur qui paie les faux cassés.
Voilà, mais l'impression qu'on a un peu à Saint-Étienne, c'est que l'entraîneur, ils l'ont gardé parce qu'il avait un contrat, une prolongation automatique en cas de montée, il monte. Qu'ils n'ont jamais fait confiance. Qu'ils n'ont pas construit une équipe de qualité.
C'est essentiel, la confiance partagée.
Ils ont fait 2-3 paris. Leur jeune attaquant belge, là, qui a mis son premier but à Toulouse. 12 matchs, un but, un avant-centre sans ses mains, grand buteur et tout. Ouais. 10 millions.
Ah, ils avaient mis tout leur pactole sur ce joueur.
Là, bon, le mec est peut-être bon, mais je crois qu'il a 20 ans. Donc, je veux dire, tu ne peux pas le juger comme ça.
On ne peut pas le laisser évoluer, grandir, lui. Hein.
Voilà, il faut... Voilà. Mais le recrutement était particulièrement faiblard. Mais il n'y a pas d'autre.
Justement, nous allons retrouver cette équipe en Coupe de France pour les 32e avant de finir l'année. Donc, le 22 décembre, je crois que ça sera
à
17h le match à Geoffroy Guichard. Bon, en espérant de tout cœur que, bon, évidemment, ça va pas, ils ne vont pas se refaire à la cerise Saint-Étienne face à nous. Il n'y a pas de raison. Hein.
Oui, rappelle qu'il n'y a pas l'entraîneur, que c'est l'entraîneur du centre de formation qui fait
l'intérim.
Et ma foi, je pense que leur mercato va être agité. Ils vont essayer de nous sortir un entraîneur. Il y a quelques noms qui circulent, mais je pense qu'ils vont te sortir un mec pas connu, un peu comme ce qu'avait fait Strasbourg. Personne ne sait qui c'est, quoi. Et enfin, on verra bien. On espère que s'il se réveille, c'est en janvier, quoi.
Laissons passer les fêtes. Voilà.
Et la Coupe de France, ce qu'il faut, c'est se qualifier. Sur le vu du match, à 15 jours, en théorie, sauf tremblement de terre, inondation...
catastrophe naturelle, mais je ne vois pas comment on pourrait ne pas gagner ce match.
Voilà, mais en foot, on sait très bien c'est un match de coupe, il suffit qu'il marque les premiers.
L'incertitude du football.
Voilà, tu prends la barre, tu ne marques pas, eux, ils marquent, un arbitrage en bois, enfin, ça peut toujours arriver, en espérant que le match il soit sur France 3 ou sur... à la télé, parce qu'il est annoncé que sur beIN Sport.
A priori, le service public match-là devrait être diffusé par des chaînes non payantes.
Service public, on rappelle qu'il y a Lens PSG et Saint-Étienne OM.
Je pense qu'ils vont se partager la galette et diffuser ces deux matchs sur le service public.
Le samedi, le dimanche. Normalement, ça devrait être comme ça, quoi. Voilà.
En tout cas, restons dans cette optique positive de victoire et continuons cette progression justement qui va nous mener à plein de super choses. En ces fêtes de fin d'année, reposez-vous bien. Bon, on en parlera, je parle à nos joueurs pour ces fêtes de fin d'année, mais en attendant, il faudra battre Saint-Étienne et reprendre sous de bons auspices ce championnat face au Havre pour la journée suivante.
Voilà, oui, d'ailleurs, samedi à la fin du match, après avoir scandé le nom de Rouli, les tribunes ont rappelé sympathiquement, avec d'une manière
toujours
un tantinet vulgaire, diront certains. Oh. Ça choquera les beaux salons parisiens, comme d'habitude. Si c'est pas complètement faux non plus, d'ailleurs. On a rappelé qu'il y avait un match à Saint-Étienne, en se rappelant aux bons souvenirs. Mais en fait, ils font la même chose.
On n'y est pas convié, que les supporters ne pourront pas se déplacer, une fois n'est pas coutume.
Voilà, comme d'habitude. Mais ça, c'est un des problèmes du foot français, que tu n'arrives plus à assurer un déplacement de supporters. Voilà.
D'une préfecture à l'autre, chacun décide ou pas d'accueillir. Enfin, bref.
Nous verrons ça. Nous en reparlerons normalement lundi, avec le retour
de Thierry que nous souhaitons,
voilà.
Avec lequel j'ai pu converser il y a peu et qui espère de tout cœur être présent. Ses obligations professionnelles prennent le dessus.
Voilà, c'est normal. Voilà, et nous vous disons bonne semaine.
Bonne semaine à toutes et à tous.
Et allez l'OM.
Que dire de mieux, que dire de plus.